Bonsoir à tous. Bonsoir, chers membres de ce panel. Mes salutations
Bonsoir à tous.
à l'endroit des initiateurs de ce webinaire. Chers internautes, bonsoir. Et ravi de me retrouver parmi vous pour modérer ce panel qui nous réunit autour d'une thématique qui nous interpelle tous. Alors, mon nom est Madame Fall Dumondon, professeure de français, mais je suis surtout là en ma qualité donc de membre de CENU, Synergie pour l'éducation au numérique. Alors, nous sommes tous réunis là aujourd'hui pour débattre d'une problématique qui est au cœur de l'éducation. Et nous tirons le chapeau à l'ASIA, initiateur donc de cette rencontre. Alors, l'ASIA Soucieux est une association qui s'inscrit au cœur de ses préoccupations, une volonté de stimuler, de créer des cadres d'échange, de réflexion, de partage susceptibles d'apporter un changement positif, surtout pour les jeunes. Et on comprend alors pourquoi l'ASIA s'intéresse à la thématique lancée cette année par l'UNESCO en marge de la célébration de la Journée internationale de l'éducation. L'ASIA, donc, avec ses partenaires, qui toutes sont unies autour d'une même préoccupation, c'est-à-dire aller vers des approches innovantes, aller vers la rupture de la routine pour nous inscrire tout simplement dans tout ce qui peut œuvrer vers l'innovation. Et la thématique de cette année, CAP, changer de cap, transformer l'éducation, a été donc lancée par l'UNESCO. Et c'est en marge de cette célébration que l'ASIA a organisé donc ce webinaire qui nous réunit aujourd'hui. Alors, je parlais tout à l'heure donc de l'ASIA comme étant une association qui met au cœur de ses préoccupations le devenir des jeunes de manière générale. Et se soucier de ce devenir de ces derniers qu'il cherche donc à réfléchir avec bien entendu ses partenaires que sont CENU, JIDER, Leader de demain, par rapport donc à cette thématique qui nous a été proposée cette année. Alors, l'ASIA, comme je le disais tout à l'heure, est accompagnée donc dans ce projet par CENU d'abord, dont je suis membre et dont je suis fière de parler. CENU qui est une organisation qui œuvre autant pour moi dans la capacitation des enseignants et des élèves de manière générale à travers un programme de formation dans lequel programme donc il met le numérique au cœur. Utiliser le numérique pour des approches innovantes, inclusives et participatives. JIDER également est partenaire de ce panel, est entièrement dédié aux jeunes entrepreneurs africains œuvrant pour le développement économique régional. Nous avons également dans cette organisation Leader de demain qui met en œuvre le social et la promotion du leadership éducatif. Et toutes ces organisations ont un point commun, c'est aller vers l'innovation, s'inscrire dans des approches innovantes pour changer de dynamique, pour changer les paradigmes. Aujourd'hui, la thématique qui nous réunit interpelle tous les acteurs de l'éducation. Enseignants, autorités, élèves, parents d'élèves, tous nous sommes aujourd'hui interpellés par cette problématique de l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes tous conscients et nous savons tous également et connaissons les difficultés aujourd'hui qui accablent le système éducatif. Les élèves se lassent de plus en plus et baissent les bras. Des questions se posent de partout. Quelle en est la cause? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces difficultés? Nous les connaissons, ces difficultés. Donc, l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui n'est pas de les serrer, d'autant plus qu'elles ne nous sont pas étrangères. Ces difficultés ont pour nom les programmes lourds, à la limite lassants, qu'il faut donc penser à une refonte. Les difficultés également sont liées à un background social assez compliqué. Le Sénégal, qui est confronté à des difficultés au niveau social, aujourd'hui, on parle de la démission. Aujourd'hui, donc, on parle de la démission des parents de manière générale. Alors, pourquoi cette démission? Qu'est-ce qui en est à l'origine? C'est également une question qui se pose au niveau donc de l'éducation. Et là, aujourd'hui, on sait également que de plus en plus, les élèves donc baissent les bras dans le domaine des enseignements apprentissage. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'acteur pour rompre à ces, pour pallier ces difficultés? Qu'est-ce qu'il faut proposer comme solution concrète pour aller dans des approches innovantes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler toutes ces difficultés qui accablent le système éducatif? Et c'est en cela donc que l'UNESCO invite cette année à une thématique qui donne le ton. Cette thématique donc nous invite à changer de cap, à transformer l'innovation. Et c'est autour de cela donc que nous devons aujourd'hui réfléchir pour voir concrètement quelles sont les approches qu'il faut mettre en avant, quelles sont les solutions concrètes qu'il faut donc proposer pour essayer de pallier à toutes ces difficultés. Alors pour débattre de ce sujet, nous avons donc autour de ce panel des leaders d'opinion qui chacun dans son domaine d'évolution s'inscrit donc dans cette dynamique innovante. Nous avons le docteur Babacar Siseba, responsable de formation, directeur de la coopération internationale, membre du conseil universitaire. Nous avons également Mohamedou Fili Diallo, membre de CENO, statisticien et planificateur à la direction de l'alphabétisation au ministère de l'Éducation nationale, acteur pour l'introduction de la programmation, la robotique dans les enseignements apprentissage. Nous avons également M. Momodou Dramé, Lead ETEC, Digital School Technologies, membre également de CENO. Nous avons parmi les panélistes également Momodou Djibissi, Point Focal, Ressources numériques pour tous à Matam, formateur en Excel et Access avancé. Et moi-même, modératrice de ce webinaire, Mme Djumandong Fall, professeure de français, membre de CENO. Et je suis surtout là en ma qualité donc de membre de CENO. Voilà donc, chers internautes, chers panélistes, le thème autour duquel nous allons donc devoir réfléchir. Le programme se déroule comme suit. Alors, chaque panéliste donc aura droit à 10 minutes pour dérouler sa communication, statuer sur la question, proposer les solutions qu'il pense être concrètes pour la prise en main de cette situation assez problématique qu'est l'éducation d'aujourd'hui. Et 5 minutes seront accordées aux discutants étudiants, 5 minutes pour les parents d'élèves également, et 15 minutes seront consacrées pour les questions-réponses. Ceux qui suivent le webinaire auront des questions certainement à poser aux panélistes, et donc cela va durer 15 minutes. Et alors, prof viendra également nous faire part de son projet innovant également, et on lui accordera 5 minutes. Alors, sans plus tarder, je donne donc la parole à Moucheba qui va introduire ce panel et nous faire part de son idée, de son opinion et de sa vision par rapport à la thématique de cette année, changer de cap, transformer l'éducation. Alors Moucheba, vous avez la parole. Vous avez, Docteur Ba, vous avez 10 minutes pour partager avec les internautes, partager avec les initiateurs de cette belle opportunité pour réfléchir sur la question donc lié à cette thématique de changement. Alors, M. Ba, avant de vous laisser la parole, juste peut-être une question pour vous, donner donc juste une idée. Changer de cap, transformer l'éducation. Quelle approche aujourd'hui pensez-vous mettre en avant pour la prise en main d'une telle thématique?
Merci beaucoup, Mme Fall. Merci beaucoup à tous les présents de ce panel. Parmi lesquels j'en connais quelques-uns et quelques-unes. Merci beaucoup au CNM et au LASIA d'avoir donc donné cette occasion à nous tous de réfléchir. C'est imaginable que notre pays, donc, qu'on pense en blanc, donc cette éducation. Voilà. Pour répondre rapidement à votre question, car j'ai très peu de temps, Madame Fall, là je dirais que on célèbre de toutes les façons une journée, d'éducation. Bien sûr, au moment où le monde vit en tournant, n'est-ce pas, un tournant essentiel et où les mêmes problèmes demeurent ou bien s'exacerbent, n'est-ce pas? Nous avons toujours des inégalités qui sont flagrantes, n'est-ce pas? Nous avons, bien sûr, un environnement qui est problématique. Nous avons donc, bien sûr, continuons de vivre l'effet dévastateur de la pandémie, eh bien, qui nous place aussi devant un choix générationnel, qu'on connaît bien. Alors, devrons-nous poursuivre alors cette voie que l'on sait déjà insoutenable ou bien il nous faut radicalement changer de cap? Donc, voilà les questions auxquelles nous devrons apporter des éléments de réponse. Bien sûr, nous devons, nous savons, nous sommes tous conscients de la nécessité donc de transformer l'avenir. Ça, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Mais comment arriver à cette transformation, n'est-ce pas? Comment arriver à rééquilibrer, n'est-ce pas, les relations les uns avec les autres? C'est ça une question aussi fondamentale qui nous mène aussi à ne pas laisser en rade la technologie qui a imprégné notre vie, n'est-ce pas? Alors, cette même technologie, n'est-ce pas, offre des possibilités tout à fait inégalées, n'est-ce pas, et aussi provoque des préoccupations en termes d'équité, en termes d'inclusion, mais aussi en termes de participation démocratique, n'est-ce pas? Qui a accès à cette technologie, donc participe, et qui ne l'a pas, donc ne pourra pas participer. Alors, il nous faut urgemment tracer une voie, n'est-ce pas, qui nous mette un peu de justice et plus de durabilité. Alors, on sait qu'en 2022, l'éducation n'a pas encore rempli les promesses vis-à-vis de ces millions d'enfants qu'on a, de ces millions de jeunes, eh bien, de ces millions d'adultes qui sont là et qui sont exposés encore à la pauvreté. Non seulement à la pauvreté, mais à la violence, n'est-ce pas, à l'exploitation, entre autres. Alors, la COVID-19 est venue pour exacerber encore plus cette crise qui était déjà là. En novembre dernier, en novembre 2021, n'est-ce pas, je crois que tous les enseignants ont eu accès donc au rapport de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation, n'est-ce pas, qui a été intitulé donc « Repenser nos futurs ensemble ». Ce mot « ensemble » est un mot clé, n'est-ce pas? Deux points, un nouveau contrat social pour l'éducation. Voilà, donc ce document que tout le monde devra donc avoir accès et lire, c'est un document qui propose des réponses à trois questions fondamentales. Lesquelles? La première, que devons-nous continuer à faire? Qu'est-ce qu'on doit continuer à faire de la même façon? N'est-ce pas? Deuxième question, que devons-nous abandonner immédiatement et totalement? Troisième question, qu'est-ce qui doit être réinventé, mais aussi avec créativité? Ce sont les trois questions fondamentales que le rapport, n'est-ce pas, essaie de donner des éléments de réponse. Car sachant que la pandémie de COVID-19 il a non seulement rappelé, mais démontré, n'est-ce pas, les fragilités qu'on a, n'est-ce pas, pour nous interconnecter, n'est-ce pas? Alors, et ce n'est que tous ensemble, qu'on veut le faire ici aujourd'hui. On a des universitaires, on a des gens qui vivent dans le moyen secondaire, tout ça, n'est-ce pas? On a peut-être des gens du ministère qui sont donc là où s'exécutent donc les politiques, et tous ensemble, et que nous pouvons transformer par la solidarité. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut aussi que l'on coopère, n'est-ce pas? Donc ça nous mène vers ce nouveau contrat social qui va être un accord qu'on doit signer entre nous, un accord implicite, n'est-ce pas, qui sera passé par les membres de société pour coopérer en vue d'un bénéfice partagé. Il faut que les universitaires, il faut que les politiques, il faut que les enseignants de tous les niveaux puissent s'asseoir et discuter, essayer de trouver des solutions dans le but d'un bénéfice partagé. Alors, ce contrat se fonde aussi sur une compréhension réaffirmée, mais aussi élargie de l'éducation en tant que droit de la personne. Non seulement en tant que droit de la personne, mais en tant qu'entreprise publique. Non seulement en tant qu'entreprise publique, mais aussi en tant qu'un bien commun. C'est important. Éducation, droit de la personne, éducation, entreprise publique, éducation, un bien commun. Ce sont donc ces trois piliers qui vont nous aider à redéfinir nos relations les uns les autres, n'est-ce pas? Et ce contrat aussi que le rapport nous amène, il encourage aussi des pédagogies coopératives, non seulement coopératives, mais aussi des pédagogies solidaires fondées sur la diversité et le pluralisme. Il faudrait que ces notions, que ces concepts soient intégrés dans nos curricula. C'est fondamental pour transformer, disons, l'éducation et changer de cap. Il requiert aussi des littératies scientifiques et numériques pour lutter contre la diffusion de la désinformation, surtout. Alors, cette division qui gangrène tout à fait nos sociétés, comme vous le voyez, n'est-ce pas? On s'accroche sur des fake news, on s'accroche sur des informations qui ne sont pas véridiques, non vérifiées, et cela nous mène donc à ce que nous savons déjà. Alors, il nous faut redéfinir, bien sûr, cette relation avec la planète aussi, en sachant que l'apprentissage doit inculquer aux élèves, n'est-ce pas, les mentalités et les compétences nécessaires pour apprendre à en prendre soin. Il le faut. Nous, les enseignants, alors, nous sommes essentiellement, nous sommes au cœur du dispositif. Nous sommes au cœur de ce renouveau d'éducation. Alors, vous me dites, mais professeur, vous allez seulement responsabiliser les enseignants. Non, pas seulement les enseignants, mais les élèves, les parents d'élèves, il faut qu'on leur donne aussi la voix. Il faut que tous les parties prenantes soient dans les conditions de pouvoir mettre en avant leur voix. Alors, c'est un débat comme vous le faites aujourd'hui à CASM, un débat sur les moteurs essentiels des transformations conduisant à des systèmes éducatifs plus équitables et inclusifs est une solution. Présenter des transformations qui sont déjà mises à l'œuvre. Le soutien de l'UVS aux écoles, aux universités, dans le numérique durant la pandémie est un exemple, n'est-ce pas? Mais il nous faut aussi mobiliser la volonté publique. C'est ça, pour lutter contre ces inégalités flagrantes qu'on connaît déjà, et l'accès et l'achèvement de l'éducation conformément à ce qu'on a déjà signé, qui sont les ODD 4. Mettre en avant, bien sûr, la voix des élèves, mettre en avant la voix des enseignants, ça va être nécessaire pour le lancement donc d'un nouveau contrat social pour l'éducation, qui nous mènera bien sûr à un nouveau cap qu'on attend tant. Voilà, merci. Je crois en 10 minutes, c'est ça que je pouvais introduire, en attendant donc qu'on développe avec les collègues qui sont là parmi nous. Merci beaucoup, Madame Fall. Je ne voudrais pas...
Merci, Monsieur Ba, merci pour votre brillante présentation. Vous avez touché du doigt les préoccupations aujourd'hui des uns et des autres. Vous avez commencé donc votre propos par une sorte de diagnostic à travers lequel donc vous avez touché du doigt les mots qui sont donc à l'origine de ces préoccupations qui nous poussent à réfléchir aujourd'hui autour de ce thème. Et parmi ces problèmes dont vous avez parlé, la pandémie est au cœur de beaucoup de ces problèmes. La pandémie donc de la COVID-19, Mais vous avez également mentionné la pauvreté aujourd'hui qui secoue la société et qui fait qu'aujourd'hui qu'on parle de démission des uns et des autres. Mais vous avez aussi mentionné un aspect très important, c'est-à-dire le règne de la violence de plus en plus et dans le milieu éducatif et dans la société de manière générale. Et après ce diagnostic, donc, vous avez résumé, en fait, je résume votre intervention à travers cette phrase. Pour moi, donc, vous avez surtout développé l'idée que l'éducation est aujourd'hui un bien public, une responsabilité publique, d'où la nécessité aujourd'hui de reconsidérer le contrat social et de réinventer tout simplement les stratégies qu'il faut mettre en avant pour donc pallier à cette situation, ces difficultés. Et parmi les solutions que vous avez proposées, j'en retiens particulièrement une qui converge surtout avec la thématique. C'est ce que vous dites, l'intégration aujourd'hui d'éthique dans les enseignements-apprentissages, ce qui nous permettrait donc peut-être d'aller vers les trois questions que vous avez soulevées. Que doit-on continuer à faire de ce qu'on a toujours fait et ce qu'on continue de faire? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qui doit être réinventé, d'où la nécessité donc d'intégrer des approches nouvelles, mais également quelles stratégies mettre en avant. Et c'est surtout les stratégies sur lesquelles nous devons aujourd'hui réfléchir. Et vous avez mis en avant l'intégration d'éthique, l'intégration des numériques, seul moyen pour vous de pallier à ces difficultés et de résoudre donc cette préoccupation qui nous hante tous. Merci, Moucheba. Voilà donc, nous allons passer la parole au deuxième intervenant qui va donc nous donner son point de vue sur cette question. Il s'agit donc de Mouché Fili Diallo, membre de CENUM, qui va donc donner sa partition de ce webinaire. Mouché Diallo, vous avez la parole. Monsieur Diallo? Monsieur Diallo?
Oui, vous m'entendez?
Oui,
Je
là on vous entend.
n'avais pas activé le micro. Donc, je dis merci à Madame Fall. Bonsoir à tout le monde. Donc, à l'entame de mes propos, hein, j'aimerais d'abord féliciter hein, les organisateurs de ce panel. Donc, après ce bien entendu, dont je suis membre, je vais féliciter l'ASIA, GIDER et tous les autres à savoir l'idée. Ce qui nous amène aujourd'hui ici, hein, c'est la journée internationale de l'éducation. Parler en fait d'un thème qui est essentiel et intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est changer de cap, transformer l'éducation, qui est vraiment une nécessité. Hein. Donc c'est pourquoi je vais axer mon intervention sur deux points. C'est pourquoi changer de cap déjà. Et la deuxième phase, ou bien le deuxième point, comment transformer l'éducation. Alors, changer de cap, je vois que c'est une nécessité, hein, puisque comme a dit le doyen tout à l'heure, nous vivons en fait une situation inédite, donc de tout le temps, des inégalités, on en voyait, mais ça s'est exacerbé avec la pandémie à COVID-19. Avec les statistiques de l'UNESCO, on repère en fait plus de 200 millions d'enfants en âge de scolariser qui ne sont pas dans les écoles. Et plus particulièrement au Sénégal, en fait, où on évalue le taux d'analphabétisme à 54,6. Pour résumer, une personne sur deux, en fait, est analphabète. Et ce taux, généralement, est beaucoup plus important au niveau des femmes. Maintenant, pourquoi réfléchir maintenant pour changer de cap? C'est aussi contribuer, en fait, à l'atteinte même des ODD. Donc, pour régler tous ces problèmes, il nous faut changer de cap, il nous faut changer, prendre une nouvelle direction en fait pour l'éducation. Maintenant, c'est important pour nous, acteurs éducatifs, puisque avant d'enseigner quelque chose ou bien avant d'intervenir dans le milieu éducatif, il faut savoir quel type d'élève ou bien quel type d'apprenant nous avons dans l'espace scolaire. C'est important. Pourquoi je pose cette question? Puisque nous, enseignants des classes, on a l'habitude, en fait, à travers des formations, de dérouler des enseignements-apprentissage. Mais si on essaie de placer l'élève au cœur des enseignements-apprentissage, nous tous, nous savons qu'en fait, nous n'avons plus les mêmes types d'élèves. C'est-à-dire que si j'essaie de décrire l'élève qu'on a de nos jours, si on essaie de le décrire, c'est un élève, en fait, qui travaille dans un autre espace, qui utilisent d'autres moyens de communication, d'autres moyens d'apprentissage, on peut citer les smartphones et autres. Même les lobbies des enfants et des élèves, en fait, ont changé. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et d'ailleurs même, c'est-à-dire que je vais au moins appeler un peu les chercheurs en fait, des sciences cognitives, qui disent même que l'utilisation même des téléphones essaie d'activer en fait, au niveau même de la tête de la personne humaine en fait, d'autres neurones qu'ils utilisent pour manipuler exactement ces nouvelles technologies. Ce qui fait que maintenant, donc, on a carrément un nouveau type d'élève, ce qui nous pousse vraiment à changer de cap puisqu'on n'a plus les mêmes interlocuteurs, nous enseignants, on n'a plus le même auditoire. Donc, ce qui fait que donc, changer ou bien transformer l'éducation serait une nécessité dans ce 21e siècle. Maintenant, pour changer l'éducation ou bien pour changer les pédagogies, il faut, bon, je vais même poser en fait 2 à 3 questions qui sont que transmettre dans ce monde actuellement, à qui le transmettre, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on a de nouveaux types d'élèves, et comment le transmettre. Et comment le transmettre va nous pousser à s'interroger sur nos méthodes pédagogiques. Puisque nul n'est sans savoir que la pédagogie a évolué. Ici, on fait référence, on fait une référence historique. On sait que de l'Antiquité grecque même, les Grecs, la manière dont ils enseignaient, ce n'est pas la même manière que les enseignants du 19e siècle, leur méthode d'enseignement. Et nous, l'espace où nous vivons, c'est un espace où le numérique est totalement présent. Donc, il nous faut aussi s'adapter aussi pour changer notre méthode d'éducation, qui doit nécessairement changer avec l'avènement des nouvelles technologies. J'en veux pour preuve, hein, moi, j'étais professeur de mathématiques, pour dire que si je suis en classe de 4e pour dérouler une leçon sur la notion de distance, avant d'utiliser les outils numériques, il me fallait 2 séances de 2 heures pour dérouler cette leçon. Mais lorsque j'ai commencé à utiliser les outils numériques, notamment avec un logiciel de mathématiques qu'on appelle GeoGebra, il m'a fallu une séance de 45 minutes pour faire, ou bien pallier, faire une leçon qui me prenait en fait 2 séances. Et les élèves, à travers l'évaluation, ont compris ou bien comprenaient beaucoup plus que les anciennes méthodes ou bien l'ancienne méthode que j'utilisais. Rien que pour ça, cela devrait quand même nous pousser à changer ou bien à avoir une autre notre pensée. Donc, changer l'école ou bien transformer l'éducation nous incite donc, comme l'a dit le doyen, à revoir nos curricula. Puisque moi, je me dis, il est impensable à une école du 21e siècle où on enseigne à des élèves où il n'y a pas la pensée algorithmique qui est importante, puisque c'est l'environnement immédiat. Il est impensable de transmettre l'information aujourd'hui sans mettre l'aspect ludique au niveau de nos enseignements d'apprentissage. Il est impensable pour nous, enseignants aussi, dans ce 21e siècle, de faire passer une information sans pour autant maintenant prendre en compte maintenant les nouvelles pédagogies à travers la classe inversée. L'exemple que je vais donner, c'est pour nous qui étions élèves peut-être il y a 15 ans, il y a 20 ans, si vous deviez apprendre une nouvelle notion, c'est le maître qui est détenteur carrément de la connaissance et du savoir. Maintenant, moi, je sais qu'à travers mes élèves, quand je leur dis « je dois aborder une nouvelle notion demain », il n'est pas rare de trouver un élève qui ait déjà visité la notion. Hein? On peut le voir avec les professeurs d'histoire géo, où l'élève a totalement connaissance, en fait. Donc, toutes ces prouesses doivent nous pousser à changer, en fait, notre méthode de faire et notre méthode d'enseigner. Parmi les compétences aussi qu'il faut au moins intégrer, je vais en rajouter en fait le leadership et un peu le développement personnel pour les élèves. Puisque les élèves doivent avoir ces nouvelles compétences, avoir ces nouvelles méthodes d'apprendre qui s'imposent à nous, hein, puisqu'ils nous les imposent. Les nouveaux types d'élèves qu'on a se révèlent même. Hein, l'année passée, on a vécu ça en fait, des élèves qui, à la fin de l'année, on l'a vécu dans l'espace scolaire, des élèves à la fin de l'année qui brûlent le cahier et autres. Moi, je n'étais pas allé vite à la besogne pour condamner en fait les élèves. J'ai essayé de faire une réflexion pour dire quels sont les élèves qu'on a dans l'espace scolaire. Et peut-être l'enseignement qu'on leur délivre peut sembler assez rébarbatif de nos jours. L'enseignement qu'on leur délivre actuellement peut ne pas être en phase maintenant avec leurs attentes et par rapport à leur milieu. Donc, pour répondre à toutes ces questions, donc, on a vu, hein, nous avons eu à mettre sur pied ce qu'on appelle la synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Vous l'avez rappelé tantôt, Dimo, à l'entame de vos propos. sa vision était de contribuer à l'intégration du numérique dans les enseignements-apprentissages. Donc, intégrer le numérique à travers les enseignements-apprentissages, où les acteurs seront les enseignants, seront les élèves, seront les parents d'élèves, seront les personnes administratives. Et dans ce sens, la création de SUNUM a favorisé en fait la création de plateformes, de beaucoup de plateformes en fait, où les enseignants sont formés. La création de SUNUM aussi a favorisé en fait la création de clubs au niveau de nos écoles, puisque tout ce qu'on dit à travers SUNUM, on les réalise dans la pratique, puisque au niveau de nos écoles, nous avons des clubs SUNUM où nous initions nos élèves sur le codage, sur des modules de formation, en leadership, en développement personnel, donc généralement avec l'appui de nos partenaires, Amina Diagne, qui je pense qui est à travers ce panel. À travers ces clubs aussi, nous initions des stages d'entreprise, qui étaient vraiment la nouveauté, puisque dans ce nom, il était possible pour nos élèves d'aller visiter les entreprises. Alors, quand nos élèves visitent les entreprises, l'objectif, ce n'est pas d'acquérir des compétences techniques, mais c'est important pour un élève qui aspire à devenir un ingénieur en informatique demain puisse visiter l'entreprise d'informatique, puisse visiter une entreprise qui travaille dans le génie civil, et cela, ça favorise ou bien ça va faire susciter d'autres vocations. Et je rêve en fait pour nos curricula de demain que ces notions de leadership et de développement personnel soient intégrées pour avoir en fait des élèves, puisque généralement, les élèves que nous avons, les vocations ou bien les métiers qu'ils embrassent, il le trouve en fait dans l'environnement familial. Mon père est un médecin, j'aspire à être médecin, sans pour autant motiver. Mon père est un ingénieur, j'aspire à être un ingénieur, sans pour autant être trop motivé. Donc les stages d'entreprise que nous faisons, que nous avons déjà réalisés avec une immersion en entreprise, avec l'aide de Modèle 6 qui nous a accueilli des stages les années passées, avec l'aide un peu de la Sonatel, l'aide de Gain de 2000, et à travers ce panel aussi, nous faisons un appel pour les autres partenaires qui sont disposés à nous prendre des élèves pendant les vacances courtes de Noël ou bien les vacances de Pâques ou bien les grandes vacances, de nous prendre des stagiaires d'élèves. Sur aussi les réalisations de SUNUM, hein, puisque toujours pour le numérique pédagogique, le SUNUM en fait énormément pour les enseignants et les élèves. Nous avons eu aussi à former nos membres dans presque toutes les académies du Sénégal, puisque SUNUM est présente dans toutes les académies du Sénégal, où nous formons nos enseignants sur le numérique pédagogique, sur les logiciels de mathématiques, comme GeoGebra, sur les logiciels de traitement de texte, les logiciels de présentation, comme PowerPoint, etc. Voilà, donc je pense qu'en fait, oui, à travers toutes ces initiatives venant de SUNUM, changer de cap pour transformer l'éducation serait une opportunité avec SUNUM. Donc merci du moins, je pense que j'ai atteint la limite du temps.
Oui, c'est Diallo. Merci, la participation a été donc de haute facture, M. Fili Diallo. Et là, on sent la passion du membre de Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias que vous êtes. Alors, de votre intervention, je retiens surtout encore, comme l'a fait votre prédécesseur, vous avez encore serré les difficultés qui accablent le système. Et parmi ces difficultés, j'en retiens deux. Vous avez mentionné le taux élevé d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Vous avez avancé un chiffre de plus de 200 millions d'enfants. Vous avez également mis l'accent sur le manque de motivation. Et là, ça nous interpelle tous et ça nous amène également à situer les responsabilités. Chaque acteur de l'éducation aujourd'hui a sa part de responsabilité dans ce qui arrive dans le système éducatif. Les parents, aussi bien que les enseignants, que les élèves. Chacun donc doit avoir sa partition à jouer pour bien entendu prendre en main ce problème. Et dans les solutions que vous préconisez, ou bien donc par rapport à cette question, vous avez mis l'accent sur l'impératif d'un changement. Et dans ce changement, vous préconisez une pédagogie nouvelle au cœur de laquelle donc va s'inscrire l'intégration du numérique. Dans cette dynamique de changement et d'innovation, vous avez pensé à l'utilisation du smartphone par les élèves. Et là, surtout une utilisation responsable, encadrée, pour permettre donc à ces élèves de retrouver cette motivation qu'ils sont en train de perdre de plus en plus. Dans toujours les solutions préconisées, vous avez parlé donc de cette capacitation des élèves, dans laquelle donc nous devons tous œuvrer. développer le leadership chez les élèves, développer également le développement personnel également doit être également un aspect important sur lequel nous devons miser en tant qu'acteurs de l'éducation pour amener aujourd'hui les apprenants, pour réconcilier les apprenants avec le système éducatif. Et pour cela, enseignants, élèves, parents d'élèves, tout le monde donc a sa partition à jouer donc dans ce travail-là. Alors, M. Diallo, vous avez parlé toujours par rapport à ce besoin de changer. Il faut donc revoir les paradigmes. Il faut innover dans les approches pédagogiques. Et c'est surtout à ce niveau-là que les enseignants devraient intervenir pour essayer donc d'amener les élèves à nouveau à s'intéresser à ce que l'on fait dans le système éducatif. Donc, ce changement passe par les techniques innovantes, par une pédagogie nouvelle que seuls les enseignants donc pourraient mettre en avant, d'autant plus qu'ils sont les maîtres sur le terrain. Ce sont eux qui sont en phase avec la réalité des classes, la réalité des écoles. Et vous n'avez pas manqué de mentionner la crise qui a secoué donc le milieu scolaire l'année dernière, à la veille donc des vacances, où l'on a vu des élèves en furie déchirer uniforme, cahier, et cela montre encore une fois la nécessité de conscientiser, la nécessité de sensibiliser sur donc tous ces problèmes qui secouent le système éducatif. Merci, M. Diallo. L'intervention a été de taille. Et sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à M. Djibi Sy, point focal, ressources numériques pour tous à Matam. M. Sy, vous avez donc la parole. Allô, M. Sy?
Bonsoir, madame.
M. Sy? Est-ce qu'il est là, M. Sy?
Oui, je suis là. Vous m'entendez?
Voilà, oui, on vous reçoit.
Bonsoir,
vous avez 10
madame,
minutes. Pour, voilà, vous avez 10 minutes donc pour intervenir sur la thématique choisie cette année par l'ASIA en marge de la célébration de la Journée internationale de l'éducation.
Merci à vous. Merci à ma femme. Donc, moi, je vais uniquement revenir sur trois axes. Peut-être ceux qui m'ont devancé ont déjà trouvé l'un des axes, c'est-à-dire l'utilisation des outils numériques. Moi, je vais revenir d'abord sur la rupture qui existe entre l'élémentaire et le moyen et le secondaire. Aujourd'hui, nous tous nous concentrons, et quelqu'un a parlé ce qu'on appelle du type d'élève qu'on doit avoir. Ce type d'élèves que nous avons sur le terrain. Et il nous faut aussi donc un type de programme qui doit être en phase avec ce type d'élèves pour au moins quand même changer un peu la donne. Le constat que j'ai fait personnellement, c'est la rupture qui existe entre l'école élémentaire, le moyen et le secondaire sur l'approche par les compétences. À l'élémentaire, nous utilisons aujourd'hui l'approche par les compétences. Par contre, au moins et secondaire, cette approche n'est pas du tout appliquée, même si c'est appliqué, c'est du point de vue théorique. Cela pose d'énormes problèmes à nos enfants. Et il ne faut pas aujourd'hui oublier que l'approche par les compétences est le moyen le plus efficace pour réduire l'écart entre les acquis scolaires et le vécu des apprenants. C'est un défi mondial à relever pour que notre éducation soit compétitive et soit rentable. Raison pour laquelle aujourd'hui, je le dis souvent aux enseignants, que si effectivement le programme n'est pas revu et que le programme n'est pas amélioré, l'élève que nous avons devant nous ne sera pas intéressé à ce qu'on lui enseigne. L'autre élément, ils l'ont déjà abordé, c'est l'insertion des pistes dans l'éducation. À l'heure actuelle, l'enseignement doit être hybride, c'est-à-dire un enseignement présentiel combiné avec l'enseignement à distance pour faire face à d'éventuels changements de situation. Il faut remarquer que les écoles qui utilisaient cette forme d'apprentissage à travers le monde avant la COVID le maîtrisaient, le faisaient méthodiquement et n'ont éprouvé aucune difficulté pour la continuité de l'école. Bien vrai qu'on note des progrès allant dans ce sens, mais il reste beaucoup de choses à faire et beaucoup d'étapes à franchir, surtout du côté de l'évaluation des apprentissages hein, à distance. Il y a l'enseignement à distance à l'heure actuelle, mais ce qui pose problème, c'est surtout l'évaluation à distance. Et je pense que pour qu'on puisse arriver à cela, il faut une formation des enseignants à l'utilisation rationnelle des outils informatiques, mais aussi à la création de ces outils. Et tout à l'heure, j'ai entendu aussi quelqu'un parler de cela. L'insertion du codage dans le programme d'enseignement, comme par exemple le STACH, le programme Arduino, qui sont des programmes de base de développement en informatique accessibles aux apprenants et à tous les niveaux. L'équipement aussi des établissements scolaires en matériel informatique de qualité. Et il ne faut pas se limiter seulement à l'équipement, il faut aussi le suivre et l'entretenir. La création de plateformes de formation en ligne pour tous les niveaux, pourquoi pas des écoles publiques ou privées en ligne puisqu'il en existe au niveau supérieur. La création de laboratoires virtuels pour l'enseignement des disciplines scientifiques. En le faisant, on règle le problème lié aux finances et à la sécurité et à l'accessibilité. La connexion des établissements à l'Internet, mais cela ne suffit pas. Il faut aller dans le sens de la gratuité et l'accessibilité pour tous les apprenants. La motivation du personnel enseignant, ça aussi c'est un autre élément. Vous serez d'accord, quelle que soit l'approche utilisée, les méthodes, le matériel utilisé, si l'apprenant n'est pas pris correctement en charge, on aura un enseignant, si l'apprenant était complètement pris en charge, on aurait un enseignant de qualité. Un enseignement de qualité, vous m'excusez, il est temps que le professionnel de l'éducation soit fixé et poussé vers la recherche pour un enseignement de qualité. En plus de cela, mes expériences personnelles m'ont permis à faire un constat, surtout sur le maintien des élèves à l'école. Hein. Je parle des élèves mères, dont j'ai remarqué qu'il n'y a pas de disposition, il n'y a pas de mesure pour les aider, les accompagner à rester à l'école. Voilà, Madame Pall, ce que j'avais comme intervention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Si. La participation a été donc d'une grande importance et nous en apprenons encore sur la nécessité, comme l'ont bien souligné vos prédécesseurs, et sur la nécessité donc de repenser les approches. Et là, vous, comme les autres qui vous ont précédé, les autres panélistes, bien entendu, vous avez commencé par cerner deux grandes difficultés qui, à votre avis, sont au cœur donc de toutes ces difficultés que rencontre le système éducatif. Alors, la première difficulté, c'est la rupture notée entre le cycle élémentaire et le moyen secondaire. Vous avez parlé d'approche par les compétences mises en exergue dans le cycle élémentaire et qui n'est pas encore effective au moyen secondaire, ce qui pose donc chez les apprenants un problème d'adaptation. Et là, ça nous ramène encore à la question des contenus dans les programmes. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces contenus-là? Est-ce qu'il ne faut pas donc les repenser? Est-ce que les élèves suivent et arrivent à supporter le poids de ces programmes qui leur sont inculqués? Est-ce qu'il y a une synergie à travers les programmes qui sont inscrits à travers les différents cycles? Je veux parler du cycle élémentaire, du moyen et du secondaire. Est-ce qu'il n'y a pas des ruptures qui sont notées quelque part et qu'il faudrait donc essayer de reconsidérer? Voilà donc les questions que vous avez soulevées, les difficultés qui, à votre avis, sont au cœur donc de cette problématique. Et après avoir donc parlé, des difficultés, vous n'avez pas manqué, bien entendu, d'émettre des solutions concrètes qui permettraient de pallier cette situation. La première solution que vous avez mise en avant, c'est l'approche par les compétences pour une éducation compétitive. Donc, faire de sorte que les mêmes approches que les équipes puissent y avoir une continuité dans les différentes approches donc, qui sont mises en avant entre les différents sites. Ça, c'est important à noter. Et là, vous interpellez et les autorités qui sont au cœur des décisions et les enseignants également qui sont les maîtres sur le terrain. Vous avez parlé également d'intéresser les élèves. Et là, vous rejoignez un peu l'avis de Mouché Diallo et de Mouché Ba qui pensent aujourd'hui à la nécessité d'intégrer les TIS donc, dans les enseignements apprentissage. Nous sommes tous sans se savoir l'intérêt que les élèves aujourd'hui accordent aux smartphones. Donc, tout le monde gagnerait à les encadrer à une utilisation plus responsable de ces outils qui pourraient être donc d'un apport très favorable pour les enseignements apprentissage. Vous avez parlé également d'équiper les établissements, de laboratoires fonctionnels par exemple et numériques. Et là, toujours le mot qui revient dans les différentes interventions, c'est la constante du mot numérique. Autrement dit, le numérique semble être la clé aujourd'hui pour décanter cette situation qui nous hante au quotidien. Vous avez parlé également pour que ces laboratoires numériques puissent être fonctionnels, il faut bien entendu qu'en amont, les établissements bénéficient d'une connectivité qui leur permettrait également de travailler à travers donc, le numérique. Sans compter maintenant, un aspect très important que vous avez touché, c'est la motivation du personnel enseignant. Ce sont les acteurs sur le terrain. Et quand la motivation n'y est pas, l'œuvre ne peut pas être parfaite. Pour qu'il y ait changement, il faut que tout le monde se sente impliqué dans ce qui se fait dans le secteur éducatif. D'où encore la nécessité donc de motiver ce personnel enseignant. Et d'inscrire également au cœur des programmes dans le système éducatif la recherche pour un enseignement de qualité. Voilà de manière assez ramassée les quelques aspects importants que vous avez mentionnés dans votre intervention qui a été mise bien entendu de très hauts facteurs. Voilà, nous avons donc fait le tour des panélistes qui nous ont donc présenté leurs différents points de vue par rapport donc à cette question. Mouché Ba, Mouché Dramé, maintenant, nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez à votre tour nous dire ce que vous pensez de cette thématique de cette année. Quel changement pour le système éducatif? Mouché Dramé, vous avez la parole. Mouché Dramé?
Ok, maintenant c'est bon.
Vous me recevez?
Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien.
Merci beaucoup. Merci, chère modératrice, de cette très belle modération. Quand j'ai vu quatre hommes, j'ai dit il y a tellement de femmes qui font de belles choses dans l'éducation que c'est dommage qu'on ne soit que quatre hommes. Mais bon, je pense qu'une femme équivaut peut-être à quatre hommes. Alors, ce que je voulais dire, moi, je vais terminer avec une note d'espoir. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce que mes copanélistes ont dit. Ils ont évidemment donné la cartographie et, de ce qui se fait déjà au Sénégal et les enjeux dans le monde. Moi, je vais terminer avec une note d'espoir pour nous dire que l'éducation a déjà changé de cap parce que le paradigme a déjà changé. On est dans un pays qui, en 2013, a fait le pari d'avoir une université virtuelle. 2013, ce n'est pas encore 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on est déjà dans ce changement de cap-là. On est déjà dans cette transformation de l'éducation. On est dans un pays qui, au sein du ministère, a aujourd'hui une division spécialisée et qui travaille, n'est-ce pas, pour l'émergence du numérique à l'éducation. On est dans un pays qui a des enseignants, déjà. Il y a des correspondants numériques au niveau des IEF, ces inspections d'académie, d'éducation, etc. Et on le fait parce qu'on comprend, bien évidemment, que l'éducation a changé, que l'éducation a changé de cap et que l'éducation est en train de se transformer. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si la question est de savoir, est-ce que ces nouveaux changements nous permettent aujourd'hui d'assurer l'équité et la qualité, je ne saurais répondre. Et bien évidemment, je l'ai dit il y a un mois dans un panel, il nous faudra un peu plus de temps pour réévaluer quel a été l'impact du numérique dans cette pandémie. Parce qu'on a beaucoup utilisé le numérique, nous-mêmes dans beaucoup de projets, mais il est encore trop tôt pour évaluer la qualité de ces initiatives, la qualité des initiatives comme le promettent au niveau du ministère de l'Éducation nationale. De ce qu'on sait, c'est qu'il y a assez de promesses. Et si moi, je dois résumer, parce qu'on a beaucoup parlé des outils, moi, je veux m'arrêter au niveau de la vision. Pour moi, il y a trois défis, dont deux ont été cités dans ce document qui a été publié par l'UNESCO. Le premier défi que j'ai soulevé, c'était le développement des compétences numériques. Et moi, je dis pas que développement de compétences numériques au sens, je vais dire, scientifique du terme, mais développer les compétences numériques pour que nous puissions saisir les enjeux d'une société d'information. On est aujourd'hui dans une société d'information à tous les niveaux. Le premier intervenant l'a dit, avec assez de fake news, avec le fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir même avoir son acte de naissance, si vous n'avez pas l'information, si vous ne savez pas utiliser peut-être le numérique avec ce qui est en train de se faire au niveau de la direction des états civils, on sera largué. Donc, il ne s'agit pas simplement de développer des compétences numériques, mais développer les compétences numériques pour saisir les opportunités d'une économie qui se digitalise. Alors, la deuxième chose, on a parlé d'adopter des attitudes green, que les élèves ou les apprenants puissent développer des aptitudes green ou écologiques, ce qui est très bien. Mais moi, j'ajouterais également le contexte africain, et on est dans une région de l'Afrique avec assez de soubresauts, et on a vu de soubresauts politiques. Ça, c'est parce que des jeunes, grâce au numérique, ont eu cet éveil de conscience-là. Et ce n'est pas des choses qu'ils ont forcément appris à l'école. Ce n'est pas des choses qu'ils ont forcément appris aux universités, mais tout simplement, le numérique leur a donné une voix. Hein, les réseaux sociaux ont donné une voix, leur compétence numérique leur a permis aujourd'hui de mieux comprendre les enjeux qui sont dans le monde et qui font aujourd'hui qu'ils s'activent dans la promotion de la démocratie. On est dans un pays qui, en milieu d'année dernière, où les jeunes sont venus et revendiquer des choses. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Mais il y a un troisième point qui n'est pas dans ce document de l'UNESCO qui, moi, me semble très important, c'est également la possibilité de développer des apprenants qui ont des mindsets d'innovation et d'entrepreneurs. Et là, je veux saluer Ndeye Apsa, qui est la présidente du JIDER depuis plusieurs années avec son initiative Graines d'entrepreneurs. C'est pour dire que les élèves, hein, qu'ils soient au moyen secondaire, au primaire, il est important qu'on puisse développer un certain nombre de soft skills, dont des mindsets d'entrepreneurs, des mindsets d'innovation. Et c'est le seul pari qu'on peut faire pour l'innovation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de métaverse, de réalité virtuelle, mais ça, c'est à l'horizon 5-10 ans. Personne ne peut prédire quelles sont les technologies émergentes qui vont venir dans plus de 10 ans. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de former des apprenants qui soient dans le public comme dans le privé, à développer des mindsets d'innovation et des mindsets d'entrepreneurs. Et ça, c'est très important. Alors, le défi étant dit, il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup d'initiatives au Sénégal. Moi, je le dis partout où je passe. Il ne faudrait pas aussi qu'on puisse dépeindre comme si on était au début des choses. On est dans un pays qui est avant-gardiste, en tout cas dans notre région, sur beaucoup de choses. Nous, on a fait le pari en 2013 avec Digital School Technology de mettre le numérique au service de l'éducation. Mais vous savez, et c'est là le bémol, c'est que souvent aussi les acteurs traditionnalistes, hein, si je peux m'exprimer ainsi, de l'éducation, oublient ce qui est mis dans le rapport de dire qu'il doit avoir un contrat social, que l'éducation c'est un bien pour tous. Donc ça veut dire quand Mamadou Dramé, par amour pour l'éducation, avec ses compétences numériques, décide de venir au service de l'éducation, qu'on ne dise pas, ben écoutez, quel background vous avez dans l'éducation? Est-ce que vous avez un PhD en éducation? Pourquoi vous pensez que c'est vous qui devez venir former les enseignants ou pas? Alors qu'il y a ce mindset d'innovation-là qui peut contribuer. Donc il faudrait qu'on revienne, on dit souvent E2D4, hein, d'éducation de la qualité, mais il y a également EDD17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Et c'est là le beau mail. Et je peux donner plusieurs exemples, dont celui du Lambay Learning Center, qui est au niveau de Bombay, qui a été fait par un membre de la diaspora sénégalaise aux États-Unis, que nous, on a accompagné dans son initiative Lambay Innovation Challenge, mais aujourd'hui, qui a décidé dans ce village d'avoir un nouveau centre d'apprentissage, et il a eu beaucoup de bâtons dans les roues, tout simplement parce qu'on lui dit que son initiative d'avoir une crèche, okay, dans ce centre-là ne répond pas à un certain nombre de standards et qu'il fallait attendre à avoir des dizaines, des centaines d'autorisations. Ce que je comprends dans la forme, mais je pense que c'est les hommes qui écrivent les règles, et si on veut qu'ensemble on ait un contrat social, si on appelle le privé, le public et les partenaires techniques et financiers pour pouvoir contribuer à une éducation de qualité, il faudrait qu'on puisse également se dire qu'il y a l'ODD17 et que c'est ensemble qu'on pourra le faire. Il faudrait aussi qu'on comprenne que les compétences dont on parle, j'ai entendu parler d'approche par compétences, qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on va développer les compétences. Il ne faudrait pas aussi qu'on se leurre. Et ça, c'est déjà dans beaucoup de directives, dans celui de l'UNESCO, dans celui de l'Union africaine, dans l'agenda 2063, où on définit l'éducation formelle, l'éducation informelle et l'éducation non formelle. Souvent, on pense que les compétences se développent uniquement dans l'éducation formelle. Mais on a dans un pays où des jeunes, dans beaucoup de familles, à l'âge de 7-8 ans, vont aller dans les daras. C'est une forme d'éducation, même si c'est une éducation informelle. Mmh. Il y a aujourd'hui des jeunes, j'ai parlé du Lamba Innovation Center, mais il y en a encore beaucoup, des Fab Labs qui existent, qui ont créé des centres d'apprentissage que l'État doit pouvoir accompagner ou tout de moins ne pas freiner. Et je pense que ça, c'est également important. Je veux aussi terminer pour dire que nous avons dans nos pays déjà des solutions endogènes. Et on a réussi dans la santé avec je pense qu'on parle des Padiengor, quelque part, où on a réussi à retrouver les rôles des dames, comment est-ce que ceux-là peuvent être importants dans la santé. Et je pense que c'est ce genre d'initiative qu'on doit pouvoir retrouver également dans l'éducation. Quels peuvent être, par exemple, les rôles de nos grands-mères, de certains grands-pères dans les villages, qu'on doit amener les enfants à peut-être s'intéresser de nouveau à la culture. Il faut pouvoir s'enraciner pour pouvoir construire le monde. Si à l'école, on n'a pas assez de temps pour pouvoir enseigner tout cela, comment est-ce qu'on peut donc utiliser l'éducation informelle, l'éducation non formelle pour développer ses compétences. Mais si nous pensons que le numérique doit uniquement s'appuyer sur l'éducation formelle, on se leurre parce qu'il y a beaucoup de nos enfants qu'on appelle les digital natives, on ne les a pas appris à utiliser les smartphones, et il y a beaucoup d'entre vous qui ont des enfants, vous voyez des enfants à faire des choses inimaginables avec les téléphones, vous n'allez pas dire, ben écoutez, on va mettre une matière qui s'appelle utiliser un smartphone au primaire. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait qu'on prenne en compte dans les dispositifs de l'éducation nationale comment est-ce qu'on soutient des centres d'apprentissage, des centres de développement de compétences annexes et qu'on sache que c'est tout ça qui va faire l'écosystème du développement de l'éducation en Côte d'Ivoire. Je veux terminer par remercier le CENOM parce qu'effectivement, c'est tout un écosystème. Et pour moi, les acteurs les plus importants sont les enseignants. Et le CENOM voit beaucoup de choses, pas seulement à Dakar. Et je ne sais pas s'ils ont eu un soutien formel de l'éducation nationale, mais j'ai vu que beaucoup de programmes sont financés par Internet Society, Google, etc. Et moi, je souhaiterais que l'État puisse dire, bah, écoutez, puisque nous, on a un fonds pour pouvoir faire le renforcement de capacités des enseignants, je fais un appel à projet que des partenaires comme le CENOM, comme l'ASIA, comme, je ne sais pas, Polaris ou autres, puissent amener leur projet parce qu'on est à cette ère-là. Et pour moi, ce serait dommage qu'on puisse rater ce coche. Et nous-mêmes, on a gratuitement investi 5 millions de francs CFA en décembre et on est en train de terminer là en janvier, où on a formé 100 inspecteurs, correspondants informatiques et médiateurs du ministère de l'Éducation nationale aux compétences numériques de base. Et l'idée, c'est que ces 100-là puissent en former 700 autres et qu'on puisse arriver à toucher un maillage de l'ensemble des enseignants au Sénégal. Mais nous, on a contribué. Derrière, bien évidemment, on fera certainement du business. On est entrepreneur, même si on est des entrepreneurs sociaux. Mais on a décidé d'apporter notre pierre à l'édifice. Et on remercie le ministère qui nous a ouvert les portes. Mais il y a beaucoup de projets également où on met les bateaux dans les roues des entrepreneurs parce qu'on décidait, on pense qu'ils ne sont pas légitimes à investir dans l'éducation. Et j'invite donc tout le monde à pouvoir s'inspirer de cette publication de l'UNESCO qui est en ligne, donc changer de cap et transformer l'éducation. Merci pour l'invitation et puis j'espère qu'on aura d'autres occasions pareilles pour pouvoir aider à faire avancer les choses. Merci.
Merci, M. Dramé. Merci pour cette intervention très pointue et vous semblez être plus optimiste puisque vous mettez l'accent déjà sur des acquis qui sont en place et qu'il faudrait tout simplement pérenniser. Vous avez été très optimiste, comme je l'ai dit, parce que vous avez constaté qu'il y a bel et bien un changement qui est déjà là et qu'il faut tout simplement redynamiser les choses, intéresser davantage les acteurs qui doivent être au cœur de ce problème pour une meilleure prise en main. Et pour cela donc, vous avez pensé à des défis qui sont déjà mis en avant à travers le programme de l'UNESCO. Dans le premier défi, vous avez parlé de développement des compétences numériques pour que nous puissions saisir les enjeux d'une société d'information. Et c'est là où vous avez surtout parlé de l'influence notoire aujourd'hui observée au niveau des réseaux sociaux. Les fake news, vous en avez parlé, et des affres qu'ils sont en train de créer dans la société. Et il faudrait donc, selon vous, travailler hein, une société d'information. Et là, ça nous ramène encore à une thématique déjà débattue tout récemment à travers CENO, c'est-à-dire l'utilisation responsable d'Internet. Et là également, c'est une préoccupation qui doit s'inscrire au cœur du système éducatif. Les élèves utilisent le smartphone. Les élèves sont connectés en permanence. Les élèves sont invités à utiliser le numérique, mais comment? Il faudrait qu'ils soient accompagnés. Il faut qu'ils soient conscientisés et sensibilisés, bien entendu, pour une utilisation responsable d'Internet. Le deuxième défi que vous avez évoqué et qui est mentionné dans le programme de l'UNESCO, c'est l'adoption des attitudes green, comme vous le dites, ou écologistes. Et là également, ça renvoie encore à la sensibilisation, à la reconsidération donc, de l'apprenant. Et là, nous comprenons bien aujourd'hui la politique éducative qui voudrait mettre l'apprenant au cœur des préoccupations, d'où la centralité sur l'élève. Et quand vous parlez donc d'attitude green, écologiste, vous voulez donc changer, hein, changer la posture des apprenants qui doit être une posture constructive allant dans le sens, bien entendu, de l'innovation. Vous avez parlé également d'un troisième défi qui n'est pas présent dans le programme de l'UNESCO, mais qui vous semble vous tenir à cœur. C'est l'inexistence donc d'entreprises ou bien la rareté des entreprises qui œuvrent dans le développement personnel. Et pour vous, donc, c'est une nécessité pour qui veut construire, qui veut faire dans l'innovation, qui veut tout simplement entreprendre. Alors, vous n'en avez pas manqué de souligner et de saluer toutes les belles initiatives qui sont aujourd'hui mises en avant pour reconsidérer les techniques et les approches pédagogiques. Mais vous n'avez pas manqué non plus de souligner la réticence de ceux-là qu'on appelle entre guillemets les conservateurs d'un enseignement traditionnel qui semblent être réfractaires au changement. Et là donc, vous invitez, hein, en vous appuyant sur les ODD-17, bien entendu, à reconsidérer ce contrat social, seule habilité donc à renouer avec cet enseignement innovant, avec ces pratiques innovantes. Vous avez également parlé d'élargir le numérique, pas seulement dans le secteur formel, mais également essayer d'aller au-delà. Parce que, comme vous l'avez souligné dans votre intervention, les compétences peuvent aussi se développer en dehors du secteur, en dehors de l'école, c'est-à-dire dans le secteur informel, comme les DARA, par exemple. Et c'est là où vous avez salué les initiatives qui sont prises, par exemple, dans le domaine de la santé, avec l'implication des Badiengor pour la sensibilisation et la conscientisation. Et là, vous préconisez également que ces mêmes pratiques, ces mêmes approches de Badiengor soient également adaptées au système éducatif pour, bien entendu, sensibiliser davantage les apprenants sur les valeurs qu'ils doivent préserver. Parce que nous sommes dans une société qui est en perte de valeurs. Hein, et ça, c'est mon commentaire, bien entendu. Et là, il nous faut renouer un peu avec ces valeurs. Comme le disait donc le poète Léopold Sédar Senghor, il faut être solidement assis sur ses racines pour ne pas être emporté donc par les vagues de l'ouverture. Nous devons nous ouvrir certes aux apports fécondants des autres civilisations, mais toujours est-il que cette ouverture doit d'abord trouver en nous des valeurs bien assises, bien inculquées que nous incarnons, d'où la nécessité d'impliquer tous les acteurs. Et là, vous donnez un peu raison à cet internaute qui, dans les commentaires, dans les discussions, disait que l'éducation et l'innovation, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement une affaire des acteurs de l'éducation, ceux qui interviennent au niveau des établissements, mais c'est l'affaire de tous. Les parents d'élèves, les autorités, les élèves, toute la société donc doit s'impliquer pour qu'on puisse atteindre ce cap du changement, pour qu'on puisse refondre. C'est refondre un peu le système et aller bien entendu vers une éducation constructive. Voilà donc, nous avons fait le tour des panélistes qui ont rivalisé vraiment de pertinence et, à travers leur communication. Et les internautes ne manquent pas non plus de réagir dans le chat à travers des questions pertinentes qui interpellent les uns et les autres. Et la question qui revient l'élément clé qui revient, qui semble être la clé ou bien la solution à ce problème, c'est tout simplement l'intégration du numérique dans les enseignements, apprentissage. Il faut innover, il faut changer, il faut adopter de nouvelles approches, de nouvelles pédagogies pour que le changement puisse s'opérer. Et c'est à tous les acteurs que ce message donc s'adresse. Voilà donc où nous avons fait le tour et nous allons donc interpeller un peu l'étudiant qui voudrait bien prendre la parole pour donner son avis, bien entendu, sur la question. À vous, M. Jules Diawara. M. Diawara? Est-ce que vous nous recevez?
Oui, je vous reçois. Je vous reçois.
Voilà, bonjour. À vous la parole. Vous avez voilà. 5 minutes. Vous avez voilà. 5 minutes donc pour nous faire part de votre position.
Simplement partager. C'est vrai que beaucoup de choses, j'ai écouté et qui sont très intéressantes. Moi, je vais partir bien entendu de notre expérience en fait au niveau d'une structure qui promeut ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle basées sur l'apprentissage des sciences et des technologies et dès le bas âge, qui s'appelle Espace Topoto, qui est bien visible au Sénégal et contribue à la culture scientifique à côté bien de la DPCS, de la DCU du Mestri. La première des choses que je vais évoquer comme problème, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, je crois qu'il faut étendre l'hybridation. Quoi. Je crois qu'il y a énormément de stratégies et de tactiques qui sont responsables. Les stratégies de jonction doivent être aujourd'hui quelque chose qui permette pour réfléchir sur une vraie gouvernance de l'éducation innovante. Ce qu'on dit ici, comme M. Dramé l'a dit, mais je ne pense pas qu'une gouvernance de l'éducation innovante sera bien comprise par les pouvoirs publics. Excusez-moi, en Afrique. Je pense que cela doit venir, pour ne pas dire sur le plan individuel, c'est-à-dire des associations des privés, mais de ce qu'on peut appeler la société civile globalement africaine. Pour expérience, nous en savons quelque chose. Parce que nous intervenons souvent dans des établissements pour l'apprentissage des STEM au niveau des écoles, mais il y a une certaine rigidité qui fait que même les enseignants, pour les amener en fait, à les former dans le codage, entre autres choses, pose problème parce qu'il faut passer par les filles, après les filles, il y a l'IA. Il y a énormément de goulots d'étranglement par rapport aux femmes. Donc, cette dynamique ne peut être portée que par une société civile, ça veut dire des initiatives privées, des associatifs qui se regroupent, qui posent un plan, un cadre qui permettrait en réalité que ceci puisse voir le jour. L'autre élément, moi, à mon avis, nous devons réfléchir sur aujourd'hui comment les gens. Parce qu'il me semble que dans cette gouvernance, toujours, il me semble que la jonction aujourd'hui aussi doit prendre en compte les différents cadres des veilles stratégiques comme les think tanks. Parce que s'il n'y a pas une jonction aussi dans les sciences, dans la production des sciences au niveau bien de ces think tanks-là, mais aussi au niveau des universités et des instituts supérieurs. Il y a énormément de gens qui travaillent dans beaucoup de cadres. Je donne notre exemple. Nous avons souvent pendant, parce que nous, effectivement, nous sommes dans une dynamique pour appuyer ou bien pour participer à des Fab Labs. On peut avoir, par exemple, des étudiants par-ci, par-là, mais il me semble qu'un cadrage permettrait en réalité des uns et des autres de bénéficier le plus possible d'une mutualisation.
Merci bien. Et aussi,
donc, à mon avis, il faut travailler sur ces questions-là.
D'accord, c'est bon.
Et de manière très pratique aussi, il faut promouvoir, je dis bien encore, comme on dit dans la presse, on dit la presse par compétence. Il faut
merci, aller plus loin pour parler merci pour cette belle contribution. Merci, nous vous remercions beaucoup. Maintenant, nous donnons la parole donc à M. Diallo. Hein? M. Diallo, est-ce qu'il est bien là? M. Diallo? M. Djibril Diallo? Ibrahima Diallo, autant pour moi. M. Ibrahima Diallo? M. Ibrahima Diallo? Élève étudiant appelé donc à donner sa contribution dans ce webinaire. Est-ce qu'il est bien là, M. Diallo, Ibrahima? Monsieur Ibrahim Diallo, est-ce que vous nous recevez? Apparemment, M. Ibrahim Diallo n'est pas connecté. On voudrait bien donc passer la parole aux parents d'élèves qui également est interpellé par cette question pour donner sa partition autour donc de cette thématique qui nous interpelle tous aujourd'hui. À vous la parole. En attendant que M. Diallo se connecte, bien entendu. Le représentant des parents d'élèves. Est-ce que M. Diallo, lui, est là? M. Diallo? M. Diallo, est-ce que vous êtes bien là avec nous? Alors, le représentant des parents d'élèves, discutant parents d'élèves, est-ce que vous voulez bien prendre la parole? Apparemment, ils ne sont pas connectés. Nous allons donc donner la parole aux participants qui posent de plus en plus donc des questions dans le chat et des questions donc qui interpellent bien entendu les panélistes. En attendant que M. Diallo soit connecté ou bien le représentant des parents d'élèves. Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes là? Alors, je reviens à vous, chers panélistes, alors, pour les questions posées par les internautes. Et là, j'ai noté ici une question de Mme Amina Diagne qui voudrait bien savoir ce que c'est qu'une éducation compétitive. À vous, les panélistes. Il voudrait bien prendre la parole donc pour prendre en charge cette question de Mme Amina Diagne. Allô, est-ce que vous me recevez? Monsieur Ba, M. Sissé, M. Dramé?
On est là, hein?
Est-ce que vous pouvez répondre à cette question de Mme Amina Diagne?
Si vous pouvez reprendre la question pour nous, s'il vous plaît.
Elle demande à savoir ce que vous entendez par une éducation compétitive.
Non, moi, je...
Il mentionné surtout par M. Si.
Oui, peut-être M. Si.
Ça a été mentionné par M. Si dans sa présentation. M. Si?
Oui. En fait, je n'avais pas la main, hein, donc je vais peut-être prendre Madame Dong. Je connais pas l'esprit de ce que Monsieur Si voulait dire, mais moi ma compréhension de cette éducation, bien évidemment compétitive, c'est tout l'écosystème, hein, tout l'approche dont on a parlé tout à l'heure et qui pourrait permettre, n'est-ce pas, d'avoir des apprenants. Donc j'appelle apprenants les élèves, les étudiants, etc., qui sont à même, ok, de répondre aux défis actuelle de notre société, celle d'un monde mondialisé, hein, si je peux dire comme ça, d'une économie globalisée. Vous savez aujourd'hui qu'il y a de plus d'entreprises aux États-Unis, en France, etc. Et c'est le cas avec Atos, pour ne pas faire de publicité, qui a lancé le recrutement d'environ 100 ou 200 ingénieurs. Mais la réalité, c'est qu'ils vont travailler sur la plupart des projets en France. Donc, on est dans un monde qui est de plus en plus globalisé, où on ne se forme pas uniquement pour notre économie nationale, on se forme également pour une économie mondiale. Peut-être que ceci voulait parler de cette éducation compétitive là qui fait que, et on a beaucoup de rapports, hein, on a le rapport par exemple PISA qui mesure, hein, n'est-ce pas, l'aptitude ou les connaissances mathématiques des élèves, et que plusieurs pays de l'OCDE prennent en compte ce rapport PISA là pour pouvoir reformer leur contenu de formation. On a également la CONFEMEN, qui est la Confédération du ministère des Éducations nationales de la francophonie, qui également émet des rapports. Donc, l'idée pour moi, et si je comprends le monsieur ci, c'est de dire, écoutez, il ne s'agit pas uniquement d'avoir une éducation de qualité et qui sied à nos besoins temporel national, mais plutôt un besoin intemporel, un besoin qui va aller avec les challenges du monde et pour pouvoir répondre aux défis d'un monde globalisé. Donc, c'est comme ça que je pourrais répondre, tout en mettant un bémol. Je ne sais pas peut-être quel était l'esprit de monsieur Sy, mais voici ce que je peux dire.
Merci, monsieur Dramé. Est-ce que monsieur Philippe Diallo aurait quelque chose à ajouter à cette réaction de monsieur Dramé pour compléter un peu? Monsieur Philippe Diallo? Monsieur Philippe Diallo?
Oui, bonsoir, Douma.
Est-ce que vous auriez un mot à placer par rapport à cette inquiétude soulevée par Madame Amina qui voudrait savoir ce que c'est qu'une éducation compétitive? Monsieur Dramé a déjà donné une réponse assez satisfaisante. Est-ce qu'en tant qu'acteur de l'éducation, spécialiste bien entendu dans l'intégration des STIC, est-ce que vous aurez un mot de plus à ajouter pour mieux lui éclairer la lanterne?
Alors, en fait, bon, je ne vais pas dire en fait qu'on va dire que c'est une compétition qu'on va essayer de mettre au sein de nos élèves, en fait, au sein de nos écoles, puisque la compétition, elle peut être bien au niveau de nos évaluations. Que la question n'a pas été soulevée, je pense plutôt par Mouchessi, mais ça a été soulevé par une participante qui se trouve en Côte d'Ivoire. J'ai vu le chat. C'est pas Mouchessi, qui parlait en fait d'évaluation, en fait de la compétition au niveau de l'évaluation. Alors, puisque c'est le problème de l'évaluation qui a été indexé, quand on doit évaluer nos élèves, l'évaluation est une phase ou bien est une approche très difficile au niveau de nos enseignements apprentissage. Mais installer la compétition sur des créations, sur l'innovation, sur des challenges ou bien sur des projets innovants, je pense que ça pourrait faire gagner à nos systèmes éducatifs de nouveaux types d'élèves qui se challengent sur des projets pédagogiques ou bien sur la création ou bien sur l'entrepreneuriat. Cette compétition installée au sein de nos écoles pourrait amener à nos apprenants d'être vers de nouveaux horizons, en fait, vers de nouvelles compétences. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Si des membres du panel aussi peuvent rajouter quelque chose, je pense qu'ils sont les bienvenus. Merci.
Alors, s'il n'y a pas une autre réaction de la part des panélistes, nous sommes rattrapés par le temps. Nous voudrions bien... Il y a Mme Annie Colli qui lève la main. Mme Annie, vous avez la parole.
Merci. Merci de me donner la parole. Je vais faire très vite. Lorsque j'ai entendu parler d'éducation compétitive, bien sûr, ce que j'avais compris, c'était que les tentatives que nous avons et le modèle d'éducation que nous avons au Sénégal, mais surtout les tentatives qui sont faites dans le plus grand silence, dans le plus grand anonymat, ici et là, par de simples professeurs, par des proviseurs ou en tout cas des chefs d'établissement qui ont une petite lueur de folie qui les guide, ben, cela permet de mettre en avant toutes les réussites en matière de progression de l'élève. Nous savons que dans une classe, les élèves n'ont pas le même statut. Ils n'ont pas la même manière d'acquérir des connaissances et à la limite, le bon professeur sait qu'il a une classe multigrade à motiver de manière différente. Ce qui nous intéresse ici, c'est de faire en sorte non pas que les résultats soient de gros résultats, grosses réussites au bac, 90% de réussite au bac, etc. et qu'on laisse en rade une dizaine d'élèves par classe chaque année, c'est un échec de l'éducation. Ce sont ces élèves-là qui ne nous intéressent pas. Ce sont ceux-là qui doivent retenir notre attention si nous voulons avoir une éducation compétitive. Je vous remercie.
Merci, Madame Annie. Merci beaucoup. Parole de sage. Bien, c'est la voix de la sagesse qui vient de parler. Et c'est sur cette réaction que nous allons donc
Est-ce que je peux juste contribuer rapidement par rapport à cette question?
Je vous en prie, je vous en prie.
En fait, nous, plutôt en éducation, on préfère plutôt parler d'apprentissage compétitif, mm-hmm. opératif, en lien et place d'éducation compétitive. Mm-hmm. Parce que je crois qu'en parlant d'éducation, bien sûr, qu'est-ce qu'on vise à l'éducation? Ce n'est pas de vaincre les autres, mais plutôt que de s'améliorer, de s'améliorer soi-même. Mm-hmm. Voilà. L'important dans l'éducation, c'est finalement moins d'être le meilleur contre mm-hmm. les autres. C'est-à-dire que de tendre vers le mieux, c'est ça. C'est pas dans un petit effort, un effort de dépassement de soi. Mm-hmm. C'est ce qu'on vise dans l'éducation. Mm-hmm. Mais quand je ne crois pas que le mot compétitif, ça colle bien à l'éducation, mais plutôt au type d'apprentissage.
Merci bien. Merci à vous. Donc voilà, donc nous sommes à la fin donc, de ce webinaire. Avant de donner la parole à Maïmouna et à Ndeye Apsa pour le mot de la fin, il y a M. Ibrahima Diallo qui vient d'arriver. M. Ibrahima Diallo, brièvement donc, nous vous donnons donc la parole rapidement.
Bonsoir, vous recevez?
À la fin donc du webinaire.
Mm-hmm. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah ok, donc c'est bien. Bonsoir.
On vous reçoit.
Bon, je me présente, donc, Ibrahima Diallo.
Mm-hmm. Vous avez 5 minutes.
Ok, je m'appelle Ibrahima Diallo. Ok, mm-hmm. pas de problème. Je m'appelle Ibrahima Diallo. Bon, je fais la première S. Mm-hmm. Pour répondre à votre question à propos de l'éducation, mm-hmm. bon, je crois que pour moi, selon moi, je crois que on doit impérativement changer le système éducatif. Par exemple, moi j'utilise des applications éducatives, par exemple, comme Duolingo. Pour pouvoir apprendre des langues comme l'anglais. Actuellement, j'apprends l'anglais, l'espagnol et l'allemand à travers cette application. Et c'est toujours c'est l'influence du numérique jusqu'à présent. J'ai aussi entendu parler une question de responsabilité. Bon, oui, c'est vrai. D'une part, la responsabilité revient à l'élève. Parce que c'est à l'élève de savoir comment utiliser le numérique, comment utiliser l'Internet et comment utiliser aussi son portable. Par exemple, moi, pratiquement, j'utilise l'Internet pour pouvoir télécharger des cours de mathématiques, de français. Parfois, je n'arrive pas à comprendre d'autre part. Je n'arrive pas à comprendre une partie de la leçon. Je télécharge le cours ou bien même la vidéo pour pouvoir ajouter à mes connaissances. Bon, d'autre part, je peux dire que aussi, la question, la responsabilité revient aux parents. Parce que c'est aux parents de savoir que maintenant, le numérique fait partie aussi de la clé du développement. Si le parent, par exemple, si le parent interdit à l'élève d'utiliser son portable pour pouvoir travailler, Ça ne peut pas marcher d'une part, car pour nous, il y a M. Mane qui utilise le Classroom, une application qui permet de dispenser des cours à distance. Là, si l'élève, par exemple, n'a pas son portable, il ne pourra pas accéder à cette cours. Bon, j'ai pas trop de choses à parler. Bon, je voulais tout simplement résumer ce que je voulais dire.
Merci.
Okay.
Votre contribution en tant qu'élève étudiant. Et là, donc, vous conviendrez avec tout le monde encore de la nécessité d'intégrer le numérique dans les enseignements apprentissage. Vous avez parlé d'apprendre l'anglais à travers des applications. C'est encore le numérique, l'été dont on parlait tout à l'heure. Et cet aspect-là qui a été mentionné par les différents panélistes. Voilà, donc, pour résumer, la question a été donc débattue de long à large. Et là, si on part ici du propos d'Ernest Renan qui disait que, je le cite, « Éduquer, c'est bâtir l'humanité à partir de l'animalité. » Aujourd'hui, fin de citation, nous devons convenir donc qu'à partir des difficultés qui ont été serrées, doivent naître les solutions. C'est-à-dire aujourd'hui, nous savons tous donc à quoi nous attendre. La clé, c'est le changement. L'innovation, c'est l'intégration des techniques dans le numérique, du moins en grande partie pour essayer donc de partir d'un nouvel élan, essayer d'intéresser les élèves qui sont donc les principales cibles dans ce secteur pour atteindre bien entendu les objectifs que se fixe l'UNESCO, c'est-à-dire d'atteindre la plus grande cible, le maximum donc de personnes et d'enfants et de jeunes pour permettre bien entendu le développement personnel et assurer donc garantir une éducation de qualité. Voilà donc, je m'en vais donner la parole à Maïmouna Diakhaté, présidente de CENUM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, pour son mot bien entendu. Maïmouna, vous avez la parole. Maïmouna Diakhaté, Madame Ley, est-ce qu'elle est là?
Oui, je suis bien là. Heureusement que Mahdi a changé le nom. J'avais pris le compte de Amina, c'est pour ça que c'est son nom qui apparaît. Alors, moi, je commencerai d'abord par remercier tout le monde, notamment les panélistes qui ont pris de leur temps, ainsi que la modératrice. Et vraiment, jeter mon chapeau à l'ASIA, qui depuis quelque temps, vraiment, organise des panels de haute facture, en plus de tout ce qu'ils font au niveau des réseaux sociaux. Et j'en profite pour inviter les collègues qui sont là, ainsi que les entrepreneurs, les élèves, les parents d'élèves, à visiter régulièrement leur site que Mahdi a d'ailleurs mis sur le chat, parce que c'est un site où vous aurez beaucoup d'opportunités justement pour rester dans le thème d'aujourd'hui. Vous aurez beaucoup de possibilités de changer de cap, de transformer l'éducation, c'est-à-dire donc de vous transformer vous-même. Vous me permettrez également de saluer Jider. Pourquoi? Tout à l'heure, je l'ai mis dans le chat quand Mohamed Fili Diallo a parlé des stages d'immersion de CENUM. Dans Jider, je suis la co-lead de la commission Graines d'entrepreneurs. Et Ndeye Absa me donnera certainement la permission de parler de Graines d'entrepreneurs. Je sais qu'elle y reviendra. Graines d'entrepreneurs, son objectif, c'est de faire germer, en fait, dans les jeunes, au sein des jeunes, des graines d'entrepreneurs pour qu'ils puissent très tôt, de façon précoce, avoir l'esprit d'entreprendre. C'est pour cette raison que nous organisons des Giacarlo. Toujours, donc, c'est pour vous dire qu'en fait, à mon avis, tous les partenaires qui ont participé à l'organisation de ce webinaire sont au cœur de ce changement de cap, sont au cœur de cette transformation de l'éducation. Qu'il s'agisse de leaders de demain, dont le président est également membre de Jider, qu'il s'agisse de l'ASIA, dont la vice-présidente ou la SG, c'est Mahdi, est également membre de Jider. Qu'il s'agisse de moi, en tant que présidente de CENUM, je suis également membre de Jider. Alors, donc, je peux dire qu'aujourd'hui, on peut dire que tout converge en fait vers Jider. Absa tout à l'heure en parlera, certainement que les gens de CENUM vont se dire, mais pourquoi il fait l'apologie de Jider et pas de CENUM? En faisant l'apologie de Jider, je fais également l'apologie de CENUM, parce que nous nous retrouvons, comme je l'ai dit, tous les partenaires se retrouvent au sein de cette thématique-là, qui nous tient à cœur et qui vous tient à cœur, vous qui avez laissé pris de votre temps pour nous suivre, c'est changer de cap exactement, comme l'a dit Mahdi. C'est une famille qui fait germer des leaders. J'ai énormément appris avec Jider et je peux dire que si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, Jider est en grande partie responsable. Je ne peux pas terminer sans saluer mon professeur ici présent, Babacar Ba. Il a été mon professeur à l'UVS quand je faisais mon master en sciences de l'éducation, ainsi que Momodou Dramé, avec qui j'ai eu à partager beaucoup d'ateliers, et bien évidemment les deux membres de CENUM, CENUM que Djouma a présenté tout à l'heure, et qui œuvre pour l'intégration du numérique dans les enseignements-apprentissage, et qui dit intégration du numérique, prend en compte, comme l'ont dit certains dans le chat, tous les acteurs du système, car comme l'a dit le dernier intervenant, l'élève, dont l'intervention me semble extrêmement importante, quand on parle d'innovation, et surtout d'innovation numérique, tous les acteurs doivent être impliqués, notamment les parents. Je terminerai en disant ceci. L'innovation n'est pas que numérique. L'innovation, c'est chaque jour ce que nous faisons en tant qu'enseignants, en tant que parents d'élèves, pour que nos enfants progressent, pour que nos enfants découvrent leur potentiel, pour les booster dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop l'évaluation compétitive. Il faut plutôt de l'émulation individuelle pour que tout le monde puisse, comme l'a dit la doyenne Annie Colley avec sagesse, émerger et se retrouver et trouver sa place plutôt dans le monde d'aujourd'hui. Donc, merci à tous pour ce brillant panel. Merci à Djuma qui a modéré de main de maître ce panel-là. Je laisse la parole à Ney Apsa, que je demande aux membres de Sénum d'écouter attentivement. Elle est très jeune, c'est vrai, beaucoup plus jeune que moi, mais elle est un modèle pour moi, une référence pour moi. Merci beaucoup.
Ney Apsa, vous avez la parole.
Ney Apsa. Allô, bonsoir, vous m'entendez?
Oui, bonsoir, on vous reçoit.
Oui, merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci aux panélistes, bien entendu. Très difficile hein, de parler après Madame Lay Maimouna Diakhaté, tellement elle nous a tressé des lauriers, mais surtout, je suis émue ce soir et cela va surprendre beaucoup parce que j'ai Madame Annie Colley qui est dans ce col et qui a été ma prof de français au lycée Thiermonseil de Nourotal. Donc, mes remerciements infiniment, je remercie l'ASIA parce que de telles initiatives, vu l'heure qui continue quand même à avoir cette passion et cette attention, c'est qu'il y a de la matière. Et merci d'avoir initié toutes les activités que vous faites depuis quelques années. Hadidjatou, Sornadja et toute l'équipe qui est derrière, merci infiniment d'avoir pris le lead dans ce consortium-là. Bien entendu, merci à Sénum pour cette formidable ascension que vous êtes en train de nous montrer. Et merci à Leader de demain, parce qu'on a dans ce call, pour une meilleure opportunité d'échange, des pays hors du Sénégal. Donc, il est important aussi de faire ce benchmark-là et de voir dans le rendez-vous du donner et du recevoir ce qu'il est bon de prendre et de mettre en place dans les pays respectifs. Moi, j'ai beaucoup appris de ces échanges et personnellement, je pense que en résumé, à travers DIDER, dont on a parlé tout à l'heure, et la commission Graines d'entrepreneurs, on aspire à essayer chaque jour de changer de cap. D'abord, à travers ce qui nous ressemble, parce que je pense que les contenus, que cela soit le contenu littéraire comme scientifique, doivent être inspirés par notre histoire, par notre culture, par nos valeurs, par nos besoins en termes de métier du futur. Ce changement de cap doit se faire par ce qui nous rassemble, que cela soit inclusif, que ça soit une éducation de qualité pour tous. Le langage des signes devrait être intégré, le langage local devrait être intégré, la langue locale, si la personne est beaucoup plus apte à comprendre une matière de cette manière, il faudrait le lui permettre, et c'est toujours de l'innovation. Le braille. Donc, il y a toute une multitude d'outils tels que le numérique, entre autres, pour rassembler les différentes opportunités, les différentes solutions à mettre en place. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on le fasse ensemble, à travers justement les gouvernements, les enseignants, les entrepreneurs, le secteur privé, les partenaires au développement auxquels j'appartiens aujourd'hui, la société civile, mais surtout les parents d'élèves et les élèves, les apprenants. Parce que quel que soit le niveau ou le degré d'innovation numérique que l'on peut appliquer à la pédagogie actuelle, tant que les apprenants ne se l'auront pas approprié ou n'auront pas décidé d'avoir cette vision-là de modèle à qui je veux ressembler, de métier que je veux faire demain, il sera très, très difficile de changer de cap. Mais nous le ferons parce que pour terminer sur une note positive et ne pas être long, je pense que chacun d'entre nous dans ce col a essayé de faire clore des graines d'espoir pour l'éducation en Afrique et c'est surtout cela, ce sont des graines d'entrepreneurs. Merci beaucoup.
Merci Ndeyapsa. Voilà donc qui met fin à ce webinaire. Nous tirons le chapeau aux différents panélistes. Nous remercions tous ceux qui ont sacrifié de leur temps pour y participer. Et nous tirons vraiment le chapeau à l'ASIA pour cette belle initiative. Et on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas un hasard si l'ASIA se retrouve autour de cette thématique avec ses différents partenaires. Parce qu'il y a une constante qui les relie, que ce soit l'ASIA, JIDER, Leader de demain ou CENUM, c'est d'œuvrer donc dans cette volonté innovante, participative, inclusive, pour faire clore, bien entendu, les germes donc d'elles qui vont faire l'avenir. Merci à tous d'avoir participé à ce partage, à ce moment de partage qui nous a vraiment enrichis. Nous nous sommes beaucoup enrichis et bonifiés à travers les différentes participations et les différentes présentations. Et les perspectives ne manquent pas. Les solutions également ont été préconisées et à nous maintenant de les mettre en œuvre pour nous inscrire dans cette thématique de cette année, Cap pour le changement. Et là également, revenir sur le mot que Maïmouna a mis en avant tout à l'heure, transformer l'éducation ne passe pas seulement par le numérique, même si le numérique demeure également incontournable. Et là, elle donne raison à ceux-là qui pensent qu'il faut également élargir les paradigmes, élargir les stratégies, aller donc vers les acteurs culturels, pourquoi pas, sensibiliser davantage la société pour atteindre et mieux atteindre les objectifs que nous nous fixons en tant qu'acteurs de l'éducation, c'est-à-dire changer et positivement les apprenants. Merci à tous pour votre...
Bonsoir, madame. Donc, m'excusez.
Je vous en prie.
Oui, je suis mandatée par la présidente de l'ASIA Sénégal, Mam Diarra, qui voudrait bien exprimer ses quelques mots de remerciement.
Ah oui,
Oui. D'abord à vous pour la très, très belle modération.
Merci.
Oui, également à tous les intervenants, Momodou Bramé, à Monsieur Diallo qui est membre de CENUM, à Dr Ba qui est également mon professeur en sciences de l'éducation, également à Monsieur Si qui représente Monsieur Guissé qui a été empêché. Donc, c'était une très, très belle session et je pense que le thème rejoint parfaitement l'esprit de l'ASIA Sénégal. On parle de changer de cap et de transformer l'éducation et je pense que cette vision doit être au cœur de toutes nos activités et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons organisé avec la synergie JIDER, CENUM et Leader de demain, ce webinaire sur le thème qui a été choisi par l'UNESCO pour célébrer aujourd'hui cette journée de l'éducation. Donc, ma petite contribution, c'est que oui, il faut changer de cap, transformer l'éducation, mais il faut éviter d'importer des modèles, prendre des modèles de partout, l'Afrique et le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, tous ces pays ont leur réalité. Donc, il faut que l'on puisse s'inscrire dans des stratégies et dans des pratiques qui soient adaptées à nos réalités et qui peuvent prendre en charge l'essentiel des problématiques qui aujourd'hui interpellent l'éducation, mais également interpellent nos sociétés. Donc, je voudrais personnellement profiter de l'occasion pour remercier JIDER à travers l'EAPSA et tous les membres. Je suis également membre de JIDER. Je ne me suis pas présentée, Khadija Toufal Sambou. J'ai cofondé l'ASIA avec Mam Diarra, qui est aujourd'hui la présidente. Et en ce moment, je suis responsable du pôle formation et éducation. Mon rôle, c'est de concevoir et proposer des stratégies et des programmes à visée de formation et d'éducation. Donc, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, mais également sur notre site l'Asia Sénégal, et vous invite à nous rejoindre, à rejoindre nos actions, parce que dans la dernière session que nous avions organisée avec Momodou Maïmouna, je pense que vous vous rappelez, l'un des participants avait émis la nécessité que tous les acteurs qui s'inscrivent dans le numérique éducatif puissent en tout cas travailler de mettre synergique, pourquoi pas mettre en place un consortium où tous les acteurs pourront travailler ensemble de manière constructive, être une force de proposition, mais aussi une force d'action. Également, nos remerciements à Sénom, qui est un partenaire clé de l'Asia Sénégal et qui personnellement est mon mentor, qui fait beaucoup dans l'éducation et que nous encourageons vivement. Également, Leader de Demain, qui est un partenaire. J'avoue que je ne connais pas très bien Leader de Demain, mais c'est l'occasion, vu sa contribution majeure dans l'organisation de ce webinaire. Donc, nos remerciements à tous et à toutes. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres canaux où nous pourrons, en tout cas, poursuivre les échanges, parce que l'éducation est un grand chantier dans nos pays et même à l'international, et il faut l'implication de tous les acteurs pour pouvoir réussir ce pari. C'était Khadijatou de l'Asia et tous nos remerciements également à l'équipe qui est derrière et qui a permis la réalisation de ce webinaire.
Merci Khadijatou. Encore une fois, nos remerciements renouvelés à l'endroit de l'Asia, et nous mettons fin à ce webinaire sur cette remarque de Moucheba qui salue l'idée donc de la création de ce consortium. Merci à tous et bonsoir.